Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 17 mars. Bienvenue dans votre journal d'information sur Radio Okapi, la radio de la paix. Je suis Gisèle Cage pour vous présenter l'actualité nationale et internationale de ce mardi. Voici les principaux titres. Kinshasa, à bout de souffle, la capitale roule, mais sur ses genoux, entre chaos, pénurie de transport et tarifs qui fusent, les Kinois se débattent dans une ville paralysée, arrêt bondé, chauffeur fantôme, trajet interminable, malgré une reprise timide, la route reste un parcours d'obstacles. Ituri sous le choc, Babé soit frappé par une attaque éclair, une incursion d'une brutalité extrême sème la panique, au moins 10 morts, des maisons parties en fumée, un camion citerne carbonisé et la RN4 transformée en zone morte, Mambasa révèle la terreur, sans réponse ni coupable identifié. Bipemba passe à une vitesse supérieure. La modernisation franchit un nouveau palier. Sur Radio Kapi, le commandant provincial de la RVA, Romain Tignama, dévoile l'état d'avancement réel, structure finalisée, zone en travaux intensifs et prochaine phase décisive pour métamorphoser l'aéroport. Kinshasa tente de reprendre son souffle après une journée de chaos total. Ce mardi, le transport en commun redémarre, mais au ralenti. Hier, la capitale était presque à l'arrêt. Chauffeurs immobilisés, arrêt bondé, usagers abandonnés, dans des files interminables. Ce matin encore, beaucoup des Kinois restent cloués sur place, pendant que certains conducteurs profitent déjà de la confusion pour faire flamber le prix. Ras-le-bol généralisé, la population exige que l'État remette enfin de l'ordre dans ces secteurs. On fait le point avec John Tiboibois.
Le poids de la grève des chauffeurs de transport en commun s'est fait encore sentir ce mardi dans la capitale. À peine quelques bus et taxis ont été aperçus sur les principales artères de Kinshasa. Face à une forte demande, plusieurs conducteurs ont majoré le prix de la course, témoigne ces Kinois.
La situation, ce n'est pas vraiment comme hier. Il y a quand même des transports, mais il y a aussi un manque de transport parce que jusque-là, on est là, on attend les bus.
Hier, vraiment, c'était catastrophique, mais aujourd'hui, il y a quand même des circulations, mais pas comme il se doit. Quand même, il y a un coût élevé. En comparant, comme d'habitude, comme ça se passe, il y a quand même un prix élevé.
Il n'y a pas de transport depuis hier, aujourd'hui encore, c'est toujours la même chose.
Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a même pas quelques bus?
Si, il y a quelques bus, mais ils ont même augmenté le prix, les taxes du placement. Ils ont vraiment bouleversé les choses.
Aujourd'hui, nous on pensait que le gouvernement va trouver une solution, mais il n'y a pas de solution parce que le prix du transport de hausse est... Nous sommes en train de faire des ajustements de notre été.
La population kinoise appelle les autorités à débloquer la situation. À noter que des scènes de violence ont été signalées ce matin à l'arrêt abattoir et au rond-point Gaba, où des altercations ont éclaté entre usagers et chauffeurs qui augmentaient les tarifs.
Et dans la foulée de cette crise qui secoue le transport quinois, les autorités provinciales ont tenté hier de calmer la tempête. Réunion express avec le transporteur et première mesure annoncée pour amener un semblant d'ordre dans la capitale. Selon l'association des chauffeurs du Congo ASECO, les chauffeurs ont été invités à reprendre le service le temps de poursuivre les discussions avec les ministres provinciaux. Dès les premières heures de ce matin, les responsables de l'association ont été déjà sur le terrain en pleine sensibilisation. L'ambiance se détend, mais la vigilance reste de rigueur. Au micro de Nation Tambo, le président de l'ASECO, bienvenue Kakule, appelle au calme et à la responsabilité.
Par rapport à toutes les revendications qui nous ont soumis, afin qu'il y ait des solutions idoines et dans un bref délai. Suite à la rencontre que nous avions eue avec le ministre provincial du transport, nous demandons à tous les chauffeurs de la ville de Kinshasa de reprendre leur activité. Et nous demandons cela déjà dès cet avant-midi, afin que la situation soit calme, puisse se rétablir et le mouvement rentre dans la normalité. Vu qu'il y a déjà des garanties et des précisions dans la réponse de nos revendications, à la réponse de tout ce qu'il y a comme problème que les chauffeurs ont croisé à cours de route, On nous a aussi demandé de donner une mission de chaque fois dénoncer tout chauffeur qui va croiser encore les tracasseries à cours de route, qu'il appelle directement son président sous-sectionnaire de l'arrêt où il vient pour nous transmettre directement aussi l'information afin de dénoncer cela auprès de l'autorité de la ville pour que toute personne qui sera plongée encore dans les désordres, qui que ce soit, qui puisse subir la rigueur et la loi.
Changement des décors, mais urgence tout aussi critique au Kasaï central. La RN1 est carrément coupée en deux. Un ravin gigantesque s'est ouvert sur le tronçon Tchingana-Bulungu, dont le groupement Benanganza, et c'est tout un axe vital qui se retrouve paralysé, isolant presque le Kasaï central du Kasaï. La société civile tire la sonnette d'alarme et exige une intervention immédiate pour éviter un isolement total de la zone. Reportage signé André Katende Ngalamoulumé.
Selon des sources locales, la situation résulte des fortes pluies qui se sont abattues dimanche et lundi dernier dans la région. Cette coupure de la route constitue un véritable calvaire pour les usagers. Près de 20 camions poids lourds sont actuellement bloqués sur cet axe. La société civile du territoire de Kazumba dénonce cette situation. Gentil Basukwamba, acteur de la société civile locale, appelle les autorités provinciales à une intervention rapide.
Cette situation perturbe gravement la circulation des personnes et des marchandises sur cet axe national. Pour maintenir provisoirement ces deux parties de la route, nous demandons une intervention urgente consistant à mettre des cailloux et des pierres, comme cela avait été fait auparavant au niveau de la rivière Miao.
Depuis ce matin, les convoyeurs et chauffeurs des camions immobilisés tentent d'aménager une déviation provisoire afin de permettre le passage de véhicules face aux difficultés rencontrées sur la route principale. Kananga, André Katendingalamoulme, Radio Okapi.
Et pendant ces temps dans les Maniema à Kindu, plus précisément sur la route Luama, qui fait vivre un véritable calvaire aux usagers, une voie pourtant essentielle, étudiants, cultivateurs, commerçants, tout le monde l'emprunte, mais avec les pluies diluviennes de lundi, la situation s'est encore aggravée, la route se dégrade à vue d'œil, rendant le déplacement presque impossible et impactant lourdement les activités universitaires et économiques. Les habitants en appellent aux autorités. Agissez et vite. Florence Kizalunga était sur place. Voici son reportage.
L'état de la route Luama laisse à désirer. Ravins, boue et flaques d'eau rendent la circulation quasi impossible. Rares sont les conducteurs de motos et de véhicules qui acceptent d'emprunter cette voie. Les passagers qui prennent le risque de monter sur des motos sont éclaboussés au point que certains ont développé des stratégies pour éviter d'être salis, allant jusqu'à prévoir des vêtements de rechange. Un étudiant témoigne.
Nous les étudiants, nous souffrons beaucoup pour aller au cours. Nous sommes obligés d'apporter des habits et même porter des sachets aux pieds pourvu que nous soyons un peu présentables au cours. La condition de la route n'est pas bonne. De la boue, de l'eau sur la route et même dans la saison sèche, la poussière n'en parlons pas.
La dégradation de cette route a également poussé les transporteurs à augmenter les prix. Déplore cet autre usager qui exige l'implication urgente des autorités.
Une course que l'on payait auparavant à Luamadé coûtait 1000 francs et à Luama 1 aussi 1000 francs. Mais maintenant, nous commençons à payer 2000 francs pour Luama 2 et 1500 pour Luama 1.
Pour rappel, le gouvernement provincial avait annoncé il y a quelques mois, lors du lancement des travaux de réhabilitation de la route Kindu-Kibombo-Samba-Kasongo, que la route Luama figurait également parmi les voies à réhabiliter. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
C'est une attaque d'une violence absolument sidérante qui replonge toute la région dans la psychose. En Ituri, Babessoa a été frappé de plein fouet, une dizaine de personnes tuées, plusieurs maisons réduites en cendres lors d'un nouveau raid mené par des hommes armés non identifiés à seulement 12 km des bandes Ngaïdo dans les territoires de Mambasa. Un camion de produits pétroliers incendié et c'est toute la RN4 qui se retrouve paralysée. Le détail avec Martial Kizabiamongo.
C'est aux environs de 20h, heure locale, qu'un groupe d'hommes armés, dont certains insérés des enfants, a attaqué les villages de Babessoa, situé à plus de 100 km de Mambasa Centre. Selon plusieurs sources locales, les assaillants, dont l'identité reste encore inconnue, ont ouvert le feu avant d'incendier plusieurs habitations. La nouvelle société civile congolaise du territoire de Mambasa avance un bilan provisoire d'une dizaine de personnes tuées, dont des enfants, certaines par balles et d'autres d'autres à la machette. Les présidents de cette structure, Jospin Paluku, appellent à une intervention urgente des forces armées pour traquer ces hommes armés qui se seraient repliés dans la réserve de faune à Okapi.
Ils ont tué une dizaine de maisons incendiées et un camion citerne a été incendié.
C'est mardi matin, ces mêmes hommes auraient également attaqué le village de Bukulani sur l'axe Ndouye, prenant plusieurs personnes en otage. La circulation est également interrompue sur la route nationale numéro 4, notamment sur l'axe commandant Mambasa Nyanya. Les autorités administratives ont annoncé qu'elles devraient se prononcer sur la situation dans les prochaines heures. Bounia. Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
On reste dans l'Est, mais on change radicalement de décor. À Butembo, ce n'est pas l'insécurité qui paralyse, mais les infrastructures. Le tribunal militaire de garnison fonctionne dans des conditions indignes. Pas de vraie salle d'audience, des sessions tenues sous des bâches, des dossiers traités sous la pluie, dans la boue. Une scène surréaliste pour une juridiction censée rendre la justice. Les réseaux pour le droit de l'homme, Redo, tire la sonnette d'alarme et réclame une intervention urgente du gouvernement. Son coordonnateur, Muindo Wasivinwa, en parle au micro de Martial Papimukeba.
Le tribunal militaire de Butembo travaille dans des conditions critiques à cause de l'absence d'une infrastructure appropriée. Les audiences se tiennent dans des bâches délabrées. Pendant la pluie, on est contraint à s'asseoir, ce qui préjudicie énormément les justiciables, surtout les détenus qui souhaitent être fixés à temps de leur sort. Pendant cette session pluvieuse, les audiences sont reportées presque chaque jour. Il y a des justiciables qui ont déclaré que leurs causes ont été reportées à plus de 5 reprises, ce qui les inquiète. Et si le Redo appelle l'État congolais de songer à la construction de ce tribunal qui est d'importance capitale, afin de soulager les justiciables ainsi que tous ceux qui fréquentent cette juridiction.
Nous n'avons pas obtenu pour l'instant la réaction des responsables du tribunal militaire de garnison de Butembo. Et pendant ces temps, au Kasaï oriental, c'est toute une partie de la justice qui se retrouve à l'arrêt. En Mbujimayi, le tribunal de grande instance est paralysé depuis lundi. Plus un seul juge pour siéger après la suspension de 3 magistrats qui composent cette juridiction. Une décision prise la semaine dernière par le premier président de la cour d'appel et qui laisse désormais plus de 3 millions d'habitants sans instance pour traiter leurs dossiers. Blocage total, inquiétude grandissante, justiciables désemparés. La tension monte. Les explications d'Esther Ndalafina.
Ce lundi et mardi, l'ambiance au tribunal n'avait rien de coutumier. Quelques justiciables venus assister aux audiences prévues ont été surpris par la mesure frappant les juges. Gilbert Kamango est visiblement inquiet.
Ce matin, j'avais une audience, mais arrivé sur le lieu, toutes les portes sont trouvées fermées. Nous ne savons pas pour quelle durée. Vraiment, ça nous pénalise, ça nous fait très mal au cœur.
Selon Maître Prince Kayembe, avocat au barreau de Mbujimayi, la situation est alarmante. 3 juges pour une ville de plus de 3 millions d'habitants, c'est insuffisant.
Je demande aux autorités du Conseil supérieur de la magistrature d'affecter beaucoup de juges à l'intérieur du pays. La même situation, on ne vit pas uniquement en Mbujimayi. Comme la nôtre constitution le dit, la population a droit à l'accès à la justice.
Plusieurs dossiers de viols, vols et escroqueries restent en suspense. Plus de 50 dossiers sont sur la table de la maison carcérale et dont les affaires relèvent du tribunal de grande instance attendent toujours d'être fixées sur leur sort. Face à cette impasse, de nombreuses voix appellent à une intervention urgente du président de la Cour de cassation pour rétablir le fonctionnement de la justice et rassurer les justiciables. Esther Dalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Une campagne massive qui tombe à point nommé. Au Nord Kivu, 260 000 enfants âgés de 6 à 59 mois sont attendus dès aujourd'hui pour recevoir le vaccin contre la rougeole. Une opération menée par les autorités sanitaires avec l'appui de Médecins Sans Frontières dans la zone de santé de Goma, Karisimbi et Nyiragongo. Le top de part a été donné au centre chrétien du lac Kivu, CCLK, où les premières doses ont été administrées ce matin. Comment les parents accueillent-ils cette campagne? Rosalie Zawadi était sur place.
Au centre de santé CCLK, les pleurs des enfants se mêlent à l'espoir des parents de voir cette maladie vaincue. C'est ici que les premiers enfants reçoivent par piqûre leur dose de vaccin contre la rougeole. Témoin des ravages de cette maladie dans son quartier, Ange Balingéné est venu très tôt avec ses deux enfants.
Nous sommes très contents de voir que MSF nous amène le vaccin contre la rougeole car cette maladie a fait beaucoup de mal aux enfants dans mon quartier et nous disons merci à MSF.
MSF. Pour l'infirmier titulaire adjoint de ces centres de santé, les activités de vaccination se déroulent sur sept sites qui comptent ces terres de santé. Corneille Bihoura pense que cette campagne de vaccination va mettre fin aux nouveaux cas de rougeole enregistrés chaque jour au niveau de ces centres.
Dans notre aide de santé, nous notifions beaucoup de cas. La moyenne, c'est 5 cas par jour. Alors, vous voyez qu'on a 5 cas ou plus par jour. Ces enfants, faut contaminer leurs frères dans la famille. Et même les enfants des voisins peuvent être contaminés et c'est pourquoi nous recevons beaucoup de cas chaque jour.
Signalons qu'à Goma, Médecins sans frontières a un centre de prise en charge gratuite des complications de la rougeole à l'hôpital de Tiéchéro. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Actualité internationale. Haïti entrevoit enfin une lueur dans la tempête. Après deux mois de violence et des chaos, certains quartiers jusque-là contrôlés par des gangs ont été repris et la police plus que présente et plus déterminée redonne un souffle d'espoir à la population. C'est ce qu'a déclaré lundi un expert de l'ONU décrivant une situation toujours dramatique mais avec de premiers signes d'un possible redressement. Aujourd'hui, plus de 1,4 million d'Haïtiens, principalement à Port-au-Prince, ont dû fuir leur domicile à cause des exactions des gangs. Un chiffre vertigineux, plus de 10% de la population en déplacement forcé à un niveau jamais atteint dans le pays, selon William O'Neill, expert des Nations Unies sur le droit de l'homme en Haïti. De retour d'une mission de 10 jours sur le terrain, il tire la sonnette d'alarme. La crise de droits humains provoque des souffrances immenses, surtout pour le plus vulnérable, femmes, enfants, personnes déplacées dans la capitale. Près de 90% du territoire serait encore sous la coupe d'au moins 26 gangs armés et, détail glaçant, près de la moitié des membres seraient des enfants de moins de 18 ans.
L'invité.
Au Kasaï oriental, ça bouge du côté de Bipemba. Les chantiers de construction et de modernisation de l'aéroport avancent à grands pas et plusieurs travaux touchent déjà à leur fin. Où en est-on exactement? Quelles sont les prochaines étapes? Le commandant provincial de la régie de voies aériennes, Romain Tignama, nous ouvre les coulisses de ce vaste projet. Il en parle au micro d'Esther Ndalafina sur Radio Okapi.
Monsieur Romain Tignama, bonjour.
Bonjour madame.
Quel est l'état d'avancement des travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba?
Bien merci. Et comme on l'a dit lors de la visite du haut en œuvre, nous sommes en travaux de finissage actuellement. Pour la plupart de tous les projets compris dans le PPSA 2 sont en phase de finissage. Donc ils ont pour la majorité donc dépassé le 90%. Et donc nous avons la tour de contrôle qui est en travaux de finissage. Il reste beaucoup plus du côté de la vigie où il faudrait placer les rideaux de verre parce qu'ils sont pratiquement dans les 90% et au-delà. Donc le nouveau tarmac, ils sont maintenant en train de placer la couche en kérosène. Ils sont dans les 95% pratiquement. Nous prenons la centrale électrique où ils sont en train maintenant d'installer tous les différents équipements. Installer tous les différents équipements qui étaient là. Donc ça, ils sont aussi dans les 90%. Et la caserne anti-incendie, ils sont dans les 92 ou 13% et il nous reste certains travaux pour pratiquement finir. Donc on entend par là les forages qui nous restent. Bon, la chaussée aéronautique, c'est-à-dire la piste, pas chaussée aéronautique, on entend tarmac et piste. La piste était déjà refaite et est en utilisation depuis pratiquement déjà, je crois, 3-4 mois. Et jusque-là, donc il nous reste à installer maintenant les équipements d'aide à l'atterrissage. Qu'on appelle l'ILS, qui sont installés incessamment. Donc, il y a certains préalables, n'est-ce pas, mais dont ils sont en train de s'y mettre. Mais que du moins pour tous les projets qui se retrouvent dans PPCA 2 sont actuellement à ce stade, on irait au-delà de 90%. En ce qui est du champ solaire, il est à 98%, même on peut le dire. Le champ solaire, on n'attend plus que le transport d'énergie. D'où ce qui nous reste à faire maintenant, ce sera du côté de l'aérogare, parce que c'est le côté qui a commencé avec le retard. L'aérogare évolue bien du côté du module national, dont le gros œuvre pourra prendre fin d'ici le mois de juin, avant de passer à l'habillage et aux travaux de finissage. En ce qui est du module international, il n'est pas encore. En ce qui est du parking auto, c'est pas encore, et le centre d'affaires, c'est pas encore. Mais que du moins, je crois qu'incessamment, les autres parties de projet pourront commencer. Il nous reste aussi le tarmac cargo, n'est-ce pas, qui comprendra la zone d'entreposage, zone frigorifique et zone de paysage. Le plus attendu même, qui est l'extension de la piste à 3000 mètres. Nous attendons à ce que ça soit avancé. Et le tout sera, n'est-ce pas, chapeauté par une clôture de 17 km qui va circonscrire tout le périmètre aéroportuaire pour répondre aux normes. Voilà à peu près.
Pouvons-nous dire que les travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba sont encore dans les délais?
Bien, bon, les travaux étaient prévus pour 24 mois et nous sommes actuellement à la sixième année. L'important, c'est que les travaux soient faits. Nous sommes enclavés, on a eu beaucoup de difficultés acheminement logistique, mais bon, Dieu merci, on a dépassé ce cap de 90%. C'est déjà ce qui était attendu. Je peux dire que par rapport au délai, le délai c'était de 24 mois, effectivement, mais bon, on est allé au-delà, indépendamment de nous et indépendamment de tout le monde, simplement par cet enclavement dont nous sommes naturellement, n'est-ce pas, enveloppés, et puis bon, et que du moins, à ce stade, nous avons bien évolué, et pour le reste, nous estimons aller aussi assez rapidement, en tenant compte des erreurs qui ont été faites auparavant du point de vue acheminement en logistique. Voilà.
Pourquoi l'exploitation internationale n'est pas encore opérationnelle?
Bah, bien entendu, la piste, la piste est faite, c'est vrai, mais il faudrait, assez qu'on ait les équipements d'atterrissage, les instruments, n'est-ce pas, BED à l'atterrissage, instruments de landing system, qui sont des équipements automatiques qui aident les pilotes à se poser, même par mauvais temps, jusqu'au sol, et c'est ce qui donne la sûreté, la sécurité, n'est-ce pas, de la navigation aérienne. Et on ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, de lancer les vols internationaux sans que tous ces préalables ne soient remplis.
Monsieur Romain Tinyama, merci.
Je vous remercie, madame.
C'était Romain Tinyama, commandant provincial de la RVA au Kasaï Oriental, interrogé par Esther Ndalafina pour Radio Okapi. C'était le journal de ce mardi 17 mars, présenté par Gisèle Cage. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la radio de la paix, votre source d'informations sûres, fiables et vérifiées. Pour plus de détails, retrouvez nos articles, reportages et programmes sur radiookapi.net ainsi que sur toutes nos plateformes numériques et réseaux sociaux. Très bonne soirée à toutes et à tous.